Bonsoir, comment allez-vous? Cette semaine, nous sommes quelques-uns à avoir été surpris par la neige. Drame pour les uns, ravissement pour les autres. Quel truc incroyable quand même! Que tout ce blanc tombé du ciel qui change le paysage en même pas quelques heures. Tout devient neuf, tout devient beau. Une espèce de perfection fantasmée mais irréalisable se trouve pourtant là devant nous. Plus jouissif que des draps propres, plus jouissif que des draps propres repassés. Plus jouissif qu'un cahier neuf, qu'un pot de confiture pas entamé, qu'un beau livre sous blister. En médecine traditionnelle chinoise, le blanc correspond aux poumons qui correspondent à l'équilibre. Je ne sais pas si les gens qui vivent dans le blanc sont plus équilibrés que les autres. Ceux qui vivent dans la nature, certainement. La ville, ça secoue. La fête du blanc, disent les commerçants quand ils bradent couettes et draps. C'est ça la neige, le neuf, mais aussi le douillet. Les formes proposées par la neige sont douces. Nos toits se transforment en édredons. Et le doux, là, pour sûr, ça équilibre.
Bonjour, je m'appelle Genoëfa, j'ai 9 ans et demi. Et je voudrais savoir pourquoi il neige le plus souvent sur les montagnes. Merci de me répondre. Au revoir.
Merci pour ta question. J'ai compris ton âge, mais pas ton nom. Mais en revanche, nous avons très bien compris ta question. Pourquoi il neige plus souvent sur les montagnes? Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que je sais, c'est que Samuel Morin, chercheur en physique de la neige, qui dépend de Météo France et du CNRS, est directeur du Centre d'études de la neige à Grenoble. Vous êtes bien basé à la montagne pour vous occuper de la neige.
On est basé à côté des montagnes. Et effectivement, on constate qu'il neige le plus souvent en montagne, en tout cas sous nos latitudes, pour deux raisons. La première, c'est qu'en montagne, il fait plus froid que près des zones de plaine. Et donc, comme il fait plus froid, les précipitations neigeuses qui se forment dans les nuages vont rester sous forme de neige jusqu'au moment où les flocons toucheront le sol. Alors que si ils allaient jusqu'à des altitudes plus basses, finalement, ils se transformeraient en pluie, dans un certain nombre de cas. Et la deuxième raison, c'est plus une question de dynamique de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'au voisinage des montagnes, les courants d'air, les courants atmosphériques, ont tendance à être accélérés. Et même, il y a du mouvement vertical. L'atmosphère est entraînée vers le haut. Et ce type de mouvement, ça fait partie des choses qui régissent la formation des précipitations dans l'atmosphère, qui régissent la formation des nuages. Et donc, la présence même des montagnes a tendance, si on peut s'exprimer ainsi, à attirer un peu les nuages, à attirer un peu les processus qui sont responsables de la production de flocons et la production de neige. Et donc, à la fois, il fait plus froid en général. Et donc, c'est plus favorable pour que la neige reste sous forme de neige quand la précipitation se produit. Et en plus, la présence des montagnes a tendance à accentuer l'occurrence de précipitations. Et donc, pour ces deux raisons, en général, il neige plus en montagne qu'ailleurs.
D'accord. Les montagnes, en fait, ça fait des obstacles qui créent un mouvement particulier. Et les nuages sont pris dans ce mouvement et ça entraîne des précipitations.
Tout à fait. Les montagnes sont des obstacles et à la fois, elles captent la précipitation atmosphérique. Ce qui explique que dans les massifs montagneux, alors par exemple la Chartreuse qui est juste à côté de Grenoble, qui est un massif montagneux qui est quasiment le premier massif des Préalpes que rencontrent les précipitations et les dépressions qui arrivent depuis l'océan Atlantique, ben finalement une bonne quantité de cette précipitation traverse la France. Alors il peut pleuvoir, il peut avoir des conditions plus ou moins agréables, mais arrivé dans les montagnes, là on a des grosses chutes de neige qui se produisent quand ces masses d'air humides en provenance de l'océan viennent percuter ou viennent rencontrer les reliefs des montagnes.
Oui, ils sont en première ligne, quoi. C'est eux qui prennent le
plus. Exactement. Et quelques kilomètres plus à l'est, finalement, on a déjà beaucoup moins de précipitations parce qu'une bonne partie de la neige est déjà tombée lors du premier relief. Et donc, plus on s'éloigne des sources d'humidité atmosphérique, plus on s'éloigne de l'océan et plus on rencontre différentes chaînes de montagnes, plus l'atmosphère est sèche. Et donc, au cœur des continents, en général, il y a beaucoup moins de précipitations et beaucoup moins de neige que dans les chaînes de montagnes qui sont près des côtes.
C'est rigolo, c'est grâce à la mer qu'il neige, en fait. Merci à Samuel Morin. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, nous saurons pourquoi le moustique, l'abeille, la guêpe piquent plutôt l'été que l'hiver. Nous saurons avec Hervé Tisse si c'est vrai qu'en se pinçant le nez, on ne sent plus le goût. Ça, c'est pour avaler un truc dégoûtant. Et nous saurons avec Bruno Daugeron si les voleurs payent des impôts. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43. 57, vous déposez votre question et nous trouvons un spécialiste pour y répondre, comme par exemple le paléontologue, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, Yves Coppens.
Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi il y a plusieurs groupes sanguins. Merci, au revoir.
Yves Coppens.
Eh bien, Alice, il s'agit de la diversité humaine, justement. Les humains sont nés dans un seul endroit, ils sont nés en Afrique tropicale, et puis à partir de l'Afrique tropicale, ils sont partis, non pas pour conquérir le monde, mais pour aller voir un petit peu plus loin. Et puis, ils se sont comme ça déployés, on peut dire ça comme ça, ils se sont déployés. Et au fur et à mesure qu'ils se sont déployés, ils ont trouvé des climats différents, des températures différentes, des humidités différentes. Donc, ils se sont diversifiés, ils sont devenus variés, divers. Et donc, ils ont eu des têtes différentes, ils ont eu des cheveux différents, ils ont eu des peaux différentes, ils ont eu des yeux différents, ils ont eu des fonctionnements de leur corps différents parfois, et ils ont eu aussi des groupes sanguins différents.
En fait, c'est juste parce qu'ils ne mangeaient pas la même chose, parce qu'ils n'avaient pas de la même température. C'est l'extérieur qui, en fait, a façonné l'intérieur.
C'est à chaque fois une adaptation de tous ces gens et de tous les animaux et de toutes les plantes en général au milieu ambiant, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement.
C'est ce qui fait qu'il y a des blancs et des noirs, par exemple.
Par exemple.
Et au début, il n'y avait que des blancs ou que des noirs ?
Au début, il n'y avait que des noirs.
En allant sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette réponse d'Yves Coppens. Nuit sans sommeil, c'était le dernier titre de la petite Cléa Vincent que nous entendons maintenant depuis 2 ans. Et oui, à force de dire elle chante depuis la semaine dernière, eh bien non, ça fait déjà 2 ans.
Les petits bateaux sur France Inter.
À propos de semaine dernière, la vraie semaine dernière, nous avions une discussion passionnée à la machine à café et à un moment donné, Marjorie de Voucou nous a dit « Il faut aller à l'enregistrement de notre invité qui est venu nous parler de droit constitutionnel, ça va vous calmer ». Eh bien, elle s'est trompée parce que c'était tellement passionnant, intéressant, que ça nous a emballés, excités.
Allô, je m'appelle Maman des Petits Bateaux. Je m'appelle Mylène et je voudrais savoir, est-ce que les voleurs payent des impôts? Au revoir et merci de me répondre.
Merci Mylène, parce que ta question nous a surprise au bureau et c'est toujours agréable d'être surpris. Je ne sais pas si elle va vous surprendre, vous Bruno Daugeron, en tant que professeur de droit public à l'Université de Paris-Descartes.
Elle ne me surprend pas, mais ce qui me surprend, c'est la pertinence de la personne qui pose la question.
Parce alors
que,
bravo.
Figurez-vous que les étudiants à qui je peux enseigner cette question sont également surpris, mais ne le savaient pas plus qu'on peut le savoir au petit bateau. Et si je voulais vous dire les choses franchement, je vous dirais aussi étonnant que ça puisse paraître, oui, les voleurs payent des impôts.
Alors ah
évidemment,
bon
tout dépend ce qu'on entend par voleur et tout dépend ce qu'on entend par impôt. Et les voleurs, de toute manière, comme n'importe qui, ils vont être obligés, à chaque fois qu'ils vont faire un achat sans le voler, de payer, par exemple, la TVA. Et ça, on ne leur demande pas leur avis. Mais la question est plus intéressante et la réponse est surtout plus étonnante quand on sait que les voleurs peuvent payer des impôts sur ceux qu'ils volent. Parce que figurez-vous,
impôt sur le revenu.
Sur le revenu, effectivement. Parce que figurez-vous qu'en France, personne n'échappe au fisc. Et il se trouve que l'administration fiscale, en droit français, a des catégories juridiques pour essayer justement de cerner ces vols s'agissant de l'impôt sur le revenu. Alors, par exemple, on parlera, s'agissant des voleurs, par exemple des détournements de fonds, ou des gens qui vont vendre des produits contrefaits, d'une activité illicite qui va générer des revenus illicites, et s'ils ont été cachés, ce sera des revenus occultes. Eh bien, même s'ils sont occultes, et même s'ils ont été gagnés de manière illicite, et que l'administration fiscale a les moyens de le prouver, eh bien, à ce moment-là, l'administration va pouvoir exercer ce qu'on appelle une taxation d'office, et puis considérer tout simplement que ces revenus qui proviennent du vol, et qu'ils ont pu identifier, eh bien, sont ce qu'on appelle des bénéfices non commerciaux pour l'impôt sur le revenu.
Et c'est alors, comment ça se passe? Comment fait l'État pour savoir que ces sommes ont été gagnées de façon, comment vous avez dit,
occulte et illicite? Ben, c'est toute la question et la difficulté de la notion de vol dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il est bien évident que le voleur qui va voler surtout de l'argent ne va pas aller remplir sa déclaration d'impôt pour lui dire non. Mais admettons qu'il soit arrêté et que la police, la justice et le fisc aient pu savoir qu'il avait bénéficié d'un certain nombre de revenus et que ces revenus sont localisables, eh bien on va les évaluer et on va les taxer d'office et il se sera considéré de toute manière comme une exploitation lucrative ou une source de profit. Et à ce titre-là, pour peu que ce soit reconstituable, et surtout pour peu que l'administration puisse le prouver, il n'est pas impossible qu'il paye des impôts. Il y a quelque chose de très surprenant, par exemple, alors ça n'est pas un voleur, mais c'est quand même une activité qui est illicite, qui est la prostitution, eh bien, sont susceptibles de générer des revenus et donc de payer des impôts. Toujours aux bénéfices non commerciaux. Ce qui veut dire que, généralement, les juristes traduisent ça comme le fait que le droit fiscal, c'est un droit qui est un peu cynique, qui n'est pas tellement moral, et qui se préoccupe d'abord de rapatrier l'argent public dans les caisses de l'État.
Sinon, pour attraper quelqu'un qui n'a pas envie de parler de ses activités parce qu'elles sont occultes, illicites, en fait, c'est son train de vie qui fait qu'il se fait prendre.
Ah, effectivement, c'est son train de vie qui fait qu'il se fait prendre. Et vous avez un article dans le Code général des impôts, qui est l'article 168, qui est le fameux article, vous savez, sur les signes extérieurs de richesse.
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand l'administration fiscale remarque qu'il y a une disproportion complète entre le train de vie d'un contribuable et puis ce qu'il déclare officiellement, qu'il va aller le trouver en lui disant que ce n'est pas normal, et puisque, comme il ne peut pas savoir combien il doit payer d'impôts à partir de ce qu'il gagne, l'administration va essayer de calculer combien il doit payer d'impôts à partir de ce qu'il dépense ou de ce qu'il possède. Et alors là, c'est une autre affaire et le contribuable peut être amené à payer très cher.
Vous voyez, je vous l'avais dit, que le droit, ça pouvait être amusant. Quelle bonne idée cette question, est-ce que les voleurs paient des impôts? Comment faites-vous quand vous avez quelque chose de dégoûtant à avaler? Chacun ses méthodes. Hervétis est créateur de la gastronomie moléculaire, il est physico-chimiste à l'INRA et il est membre de l'Académie d'agriculture. Vous trouverez le titre de ses ouvrages sur le site des Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Marie-Lou et j'ai 11 ans. J'aimerais savoir si c'est vrai qu'en se pinçant le nez, on ne sent plus le goût de la chose qu'on mange. Merci d'avance.
On faisait ça autrefois pour les médicaments. Marie-Lou pose cette question. Si on se pinçant le nez, on ne sent plus le goût de la chose qu'on mange. Hervétis.
Oui, c'est plus ou moins vrai. Alors, pour commencer, il faut faire une expérience. Donc, vous allez prendre, par exemple, une graine de cardamome ou... Pas un truc piquant, hein, une graine de cardamome ou une épice, quelque chose de concentré. Alors, vous vous pincez le nez. Vous mettez l'objet en bouche, la graine de cardamome par exemple, vous mastiquez, il y a une saveur que vous sentez, puis tout d'un coup vous ouvrez les doigts, et plach, il y a un goût qui arrive, c'est l'odeur qui survient. Le goût, c'est comme un tabouret avec trois pieds. Il faut les trois pieds pour que ça tienne debout. S'il y a un pied qui manque, tout s'effondre. Et vous voyez, par exemple, quand vous êtes enrhumé, vous sentez plus le goût, alors que vous avez toujours la saveur. Mais inversement, quand vous vous brûlez la bouche avec une pomme de terre, vous perdez le goût, alors que vous avez toujours l'odeur. Hein. Alors, du coup, cette expérience avec les doigts qui pincent le nez, c'est pas mal, mais il y a quand même des molécules odorantes qui remontent un peu. Alors, il y a mieux. Vous prenez une petite pompe d'aquarium, bien propre, et au lieu de souffler de l'eau, vous allez souffler de l'air, vous les faites marcher dans l'air. Et vous mettez un tuyau qui arrive dans le nez. À ce moment-là, il y a un courant d'air très très léger, une petite pompe d'aquarium, un courant d'air très léger qui va pousser l'air vers la bouche par les fosses rétronasales, entre le nez et la bouche. Et donc là, vous sentirez pas du tout l'odeur. Et c'est très intéressant de se mettre à goûter des tas de choses pendant qu'on a ce courant d'air. Parce que là, on va sentir la saveur des objets. Alors, on va goûter les sardines, on va goûter le chocolat, on va goûter le roquefort, on va goûter des tas de trucs. Et on voit les saveurs qui sont très différentes. On voit bien que la réglisse, c'est pas la même saveur que le yaourt, c'est pas la même saveur que le vinaigre, c'est pas la même saveur que le vin, etc., etc. Le monde des saveurs est merveilleux. On ne peut le découvrir qu'avec cette pompe d'aquarium. Et pour conclure sur cette question, eh ben, il se trouve qu'il y a des piquants qu'on sentira quand même, parce que ça brûle. Hein.
Ah oui, ça brûle. Mais pour l'huile de foie de morue de nos parents ou grands-parents, pompe d'aquarium.
Alors oui, parce que là, l'huile de foie de morue contient des molécules odorantes et elles viennent dans le nez. Donc si on les empêche de venir dans le nez, on les sentira pas.
Voilà, si vous vous désolez parce que vous avez un aquarium qui ne vous sert plus parce que vous avez abandonné les poissons, récupérez la pompe. Vous voyez, vous avez bien fait de la garder. Elle a une utilité. Elle vous permet d'accéder au monde des saveurs qui est merveilleux, nous dit Hervé Tisse.
Found myself alone, alone, alone above.
Just Like Heaven, gros tube de The Cure en 1987, une chanson qui chante le grand amour éternel et monogame.
Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi le moustique, l'abeille et la guêpe puent plutôt l'été que l'hiver. Merci, au revoir.
Bonsoir Théo, c'est un chercheur au CNRS à l'Université de Toulouse qui va te répondre, une chercheuse même, Aurore Avargues-Weber. D'abord, a-t-il raison Théo avec cette histoire d'abeilles, de guêpes et de moustiques qui piquent plutôt l'été que l'hiver?
Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on l'a tous remarqué, donc bonsoir Théo. Alors il y a deux raisons principales à ça. La première raison, c'est que les insectes, et donc entre autres le moustique, la guêpe et l'abeille, sont ce qu'on peut appeler des animaux à sang froid. C'est-à-dire que contrairement à nous, elles n'ont pas de chauffage central et ne contrôlent pas la température de leur corps. Ce qui fait que lorsqu'il fait froid dehors, le corps est tout froid. Et lorsqu'il fait chaud dehors, le corps est tout chaud. Et lorsqu'on est tout froid, on s'endort. On devient qu'on appelle quiescent, c'est-à-dire que l'animal bouge tout doucement et est peu réactif, voire s'endort totalement. Et donc, c'est vrai que les insectes en hiver, la plupart des insectes vont soit mourir, beaucoup d'insectes sont annuels, donc ils meurent l'hiver, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir, ils sont trop ralentis. Et ceux qui vont survivre, ils vont en général se cacher dans la terre ou dans des trous assez profonds et s'endormir, hiberner si tu veux, ce qu'on appelle la diapause chez ces animaux. Et donc ça revient à hiberner comme un ours et ils vont passer donc l'hiver sans pouvoir trop bouger parce qu'il fait trop froid et ils vont ressortir seulement lorsqu'il fait chaud. Donc on ne voit très très peu de guêpes et d'abeilles l'hiver. Parfois, lorsque les guêpes et les abeilles vont, elles, survivre tout l'hiver, on peut les voir lorsqu'il fait chaud, elles vont se réveiller un peu, ressortir un petit peu, mais de toute façon, elles sont assez peu réactives et on les voit beaucoup moins. Et le moustique, c'est pareil, mais ils sont tout mous. Hey. Et voilà. Et donc du coup, bon, pour qu'ils nous piquent, déjà on les voit arriver de loin. Ils sont beaucoup moins efficaces. En plus, les moustiques ne sont pas en période de reproduction, du coup, et donc ils vont surtout piquer. Là, c'est la femelle qui pique pour récolter du sang pour nourrir ses larves. Et enfin, l'autre raison, c'est que même si on en a un petit peu dans les beaux jours, nous, on est beaucoup plus couverts, on est beaucoup moins dehors, oui. On n'est pas en train de jardiner, donc on est bien sûr beaucoup moins en vulnérable. Contact avec ces insectes-là.
On n'est pas une cible. Et alors, dans les pays où il n'y a pas d'hiver, Aurore Avargues-Weber, dans les pays où il ne fait jamais froid, comment ça se passe pour les
insectes? Justement, c'est des pays où les insectes pullulent en général, parce que c'est des pays où, du coup, il n'y a pas de mortalité annuelle. Ils ne meurent que, du coup, de vieillesse et non pas de froid. Donc, souvent, c'est des pays où il y a une prolifération d'insectes incroyable par rapport à chez nous, une grande variabilité et souvent des insectes bien plus dangereux. Et là, il n'y a pas de répit pour les piqûres.
Quelle est la durée de vie d'une abeille, à peu près?
Alors, une abeille, en été, c'est à peu près un mois. Donc, une abeille, lorsqu'elle naît, elle reste dans la ruche et elle a tout un tas de tâches. Donc elle commence à nettoyer la ruche, à construire, elle s'occupe ensuite des larves, etc. Et elle finit après à commencer à sortir, elle a déjà 3 semaines en moyenne. Et là, elle commence d'abord par être gardienne, donc elle reste aux alentours de la ruche. Et seules les abeilles les plus expérimentées, les plus vieilles, vont s'éloigner et aller chercher le nectar ou le pollen. Donc ça devient des butineuses. Et ces abeilles-là, du coup, s'épuisent assez rapidement à la tâche et en général, elles ne survivent pas plus qu'une semaine dehors. Soit elles meurent d'épuisement, soit elles se perdent ou se font manger. Et donc, en été, c'est un mois maximum. Par contre, à l'automne, les abeilles qui vont naître à l'automne, ces abeilles-là vont passer tout l'hiver, donc à moitié endormies, dans la ruche. Elles se mettent en grappe dans la ruche autour de la reine pour faire que la reine reste suffisamment chaude pour ne pas mourir. Et elles-mêmes, si la température descend trop, vont s'agiter un peu, bouger des ailes pour faire monter un peu la température et pouvoir survivre jusqu'à l'été suivant. Donc ces abeilles-là peuvent vivre 5-6 mois. Et à l'été, au printemps, quand la température revient, que la reine se remet à pondre, ces abeilles-là vont aller butiner, s'occuper de la ruche jusqu'à ce que les nouvelles arrivent. Et dans ce cas-là, elles vont pouvoir enfin se reposer.
Merci Aurore Avargues-Weber. C'est tout de même un des bienfaits de l'hiver que d'être à l'abri des piqûres d'insectes. Vous pourrez réécouter toute ou partie de ces petits bateaux sur franceinter.fr. Vous pouvez également podcaster cette émission. Merci à Nasser Moussaoui, à Jean-Christophe Audibert, à Marjorie Devoucaux, Eliane Girard, Noël Bréham. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30 et nous vous laissons avec Denis Chessou pour la Tulle, mon petit loup.